Bonjour ou bonsoir tout le monde. L'Université populaire de Marseille entame aujourd'hui une série d'exposés sur la démocratie directe, dans le but non seulement de mieux comprendre son histoire, mais aussi et surtout de favoriser une action dans le présent à l'occasion des élections municipales de mars prochain. Bien entendu, nous n'avons aucune visée de propagande électorale, nous n'allons soutenir aucun parti ou tendance. Nous souhaitons apporter une réflexion sur le type de régime politique dans lequel nous vivons et sur la possibilité de le faire évoluer vers une véritable démocratie. De manière plus pratique, nous souhaitons inciter les citoyens à reprendre en main leur pouvoir politique, au moins à l'échelle municipale, en s'organisant légalement en démocratie directe. Dans un premier temps, nous indiquerons les raisons pour lesquelles ce changement nous semble nécessaire et bénéfique à tous égards. Ensuite, dans une deuxième vidéo, nous montrerons comment le régime représentatif s'est imposé à partir de la Révolution française, alors même que s'exprimaient déjà des propositions plus démocratiques. Dans un troisième exposé, nous remonterons à la démocratie athénienne pour décrire toutes les mesures qui ont bien fonctionné, qui peuvent encore nous servir d'inspiration aujourd'hui, et celles qui devraient être améliorées, actualisées, supprimées. Enfin, nous raconterons l'expérience d'une commune qui s'est mise en démocratie directe depuis les élections municipales de 2020, à la très grande satisfaction de ses habitants, et nous fournirons quelques conseils et outils pour ceux qui voudraient présenter une telle liste en mars 2026 et auraient donc à diffuser l'idée auprès de leurs concitoyens. Toutes les indications officielles en vue de se présenter à ces élections sont disponibles sous une forme claire sur le site. Attention, la date limite pour le dépôt des listes électorales est le 26 février. Ce n'est un mystère pour personne que la démocratie représentative parlementaire est en crise, alors qu'elle se présente comme la seule démocratie possible et raisonnable. Le constat est partagé tant par ses adversaires que par ses partisans. Nous voulons montrer que cette crise n'est pas seulement conjoncturelle, mais révèle des problèmes structurels qu'on ne résoudra pas par de simples amendements. On va se concentrer sur la France, tout en sachant que la même crise affecte tous les régimes représentatifs de par le monde. La crise se manifeste d'abord par une défiance généralisée envers le personnel politique, tout parti confondu, et par une insatisfaction vis-à-vis des institutions. Selon un récent sondage du CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, 74% des personnes interrogées pensent que les hommes politiques sont corrompus. À la question de savoir si la démocratie fonctionne bien, 3% seulement des personnes interrogées répondent « très bien », 25% « assez bien », 43% « pas très bien » et 28% « pas bien du tout ». Et l'on voit que la tendance s'accentue au cours des années. Il est significatif que le niveau de confiance envers les institutions diminue au fur et à mesure qu'on s'élève sur l'échelle du pouvoir. Comme on le voit ici, le conseil municipal jouit encore d'une certaine confiance chez 58% des personnes interrogées, tandis que l'Assemblée nationale et le gouvernement sont au plus bas, avec seulement 24 et 23% de confiance. Conséquence probable de cette méfiance, le signe le plus visible du dysfonctionnement du régime est l'abstention croissante aux élections. Par exemple, une enquête de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, montre que ces dernières décennies, l'abstention aux législatives a augmenté constamment pour arriver à 50% lors du scrutin de 2022. Quant aux élections présidentielles, si elles atteignent encore une participation de 70 ou 80%, on en connaît bien la raison, c'est uniquement pour faire barrage au pire qu'une grande partie des électeurs se résigne à donner son vote bien à contre-cœur au candidat le moins inadmissible. Ceux que chiffonnent ce désaveu reprochent aux citoyens leur désintérêt pour la politique et leur repli sur la sphère privée. Mais ce désintérêt n'est pas si évident. Comme on le voit ici, 55% des personnes interrogées s'intéressent beaucoup ou assez à la politique, contre 45% peu ou pas du tout. Et remarquez qu'on aurait certainement obtenu un résultat plus favorable encore si la question avait été moins ambiguë, si on avait précisé qu'on parlait de la politique telle qu'elle se fait, ou de la politique en elle-même comme organisation des affaires communes, telle qu'elle devrait se faire. Le déclin de participation doit à l'évidence être mis en relation avec le constat largement partagé que voter ne sert plus à rien. La vie politique française de ces derniers mois le montre d'une façon éclatante. Le 9 juin 2024, le président de la République dissolvait l'Assemblée nationale et convoquait de nouvelles élections, dont ensuite il n'a tenu aucun compte puisqu'il a nommé successivement trois premiers ministres issus de partis ayant perdu les élections. Indépendamment de ce coup de force, la logique des partis qui font bloc l'un contre l'autre empêche l'Assemblée d'aboutir à des décisions, même de compromis. Or, l'exclusion politique du peuple coïncide avec une accumulation de problèmes sociaux et écologiques, aussi bien locaux que planétaires, que la classe politique se montre incapable non seulement de résoudre, mais même de considérer dans toute l'ampleur et l'urgence qui seraient nécessaires. De jour en jour, s'impose l'évidence qu'une classe de professionnels hors sol, détachée de la réalité vécue par le plus grand nombre et insouciant de son sort, concentrée sur le maintien des privilèges des classes supérieures, dont ils sont les représentants quand ils n'en sont pas issus eux-mêmes, ne cherche plus qu'à se maintenir au pouvoir dans une vision à court terme suicidaire pour la société.
La fusion économico-étatique est la tendance la plus manifeste de ce siècle. Elle y est pour le moins devenue le moteur du développement économique le plus récent. L'alliance défensive et offensive conclue entre ces deux puissances, l'économie et l'État, leur a assuré les plus grands bénéfices communs dans tous les domaines. On peut dire de chacune qu'elle possède l'autre. Il est absurde de les opposer ou de distinguer leurs raisons et leurs déraisons. Cette union s'est aussi montrée extrêmement favorable au développement de la domination spectaculaire qui, précisément, dès sa formation, n'était pas autre chose.
Le vote pouvait avoir un certain sens quand les programmes des partis étaient bien différenciés et que certains contenaient de véritables changements structurels. Encore pendant une partie du XXe siècle, les classes sociales ont pu s'affronter et négocier des compromis par l'intermédiaire de leurs partis. Ce rapport de force politique, uni à une conjoncture économique mondiale dominée par les pays développés, a permis l'amélioration des conditions de vie matérielles dans ces pays-là, tout en garantissant l'état de droit et les libertés individuelles. La privation du pouvoir politique pour la majeure partie des citoyens était alors compensée par l'obtention d'un certain bien-être économique et privé. Le pacte implicite qui cimentait la société industrielle était « l'avenir sera meilleur, nos enfants vivront mieux que nous ». Tout s'est inversé depuis les années 1980, qui ont vu le ralliement général au modèle néolibéral, au point que les partis ne se différencient plus que sur le degré de redistribution des richesses qu'ils veulent bien consentir ou sur des questions d'évolution des mœurs. Les représentants des classes populaires, partis et syndicats, ont été progressivement intégrés à l'appareil dirigeant, si bien que la classe capitaliste étatique n'a plus d'ennemis organisés et qu'elle peut affirmer cyniquement sa domination sous le slogan « Il n'y a pas d'alternative ». Les compensations sont désormais révolues. Dans un cadre de précarité économique et de gestion bureaucratique de la misère, les revendications populaires se réduisent à sauver des miettes de la protection sociale solidaire et d'un pouvoir d'achat rongé en réalité par l'inégalité croissante dans la répartition des richesses. L'insécurité de l'existence génère angoisse et révolte, et pour toute réponse à celle-ci, l'appareil répressif limite les libertés fondamentales d'opinion, d'expression, de rassemblement, et on glisse vers des méthodes de gouvernement de plus en plus ouvertement autoritaires. La démagogie de ces professionnels de la communication parvient encore à abuser une partie de l'opinion publique et à lui faire croire que les responsables de cette débâcle sont les pays ennemis, les immigrés, les réfugiés ou tous les surnuméraires dont le capitalisme avancé n'a plus besoin. Les médias les plus influents étant aux mains soit de l'État, soit des magnats de la finance, il n'y a plus qu'une toute petite partie de la presse qui pourrait servir de contre-pouvoir, de contre-mensonge. Et encore, la vérité est tellement difficile à établir qu'on est obligé de se mouvoir dans l'opacité. Dans ces conditions, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une partie de la population, à défaut de pouvoir s'attaquer aux puissants, se retourne contre de plus faibles encore, qui servent de dérivatifs et de boucs émissaires. La dernière trouvaille du régime représentatif, pour se redonner un peu de légitimité, est de prétendre introduire des éléments de démocratie participative, nouveau leurre que nous distinguerons très soigneusement de notre démocratie directe. Pour en analyser un exemple particulièrement illustratif, considérons la Convention citoyenne sur le climat, uniquement sous l'angle de la démocratie, indépendamment des positions diverses qu'on peut avoir sur son contenu. Mise en place en 2019, la mission de cette Convention citoyenne était de définir des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en respectant la justice sociale. Le président de la République s'était publiquement engagé à ce que ces propositions soient soumises sans filtre au Parlement ou au référendum. La convention était composée de 150 citoyens tirés au sort sur un mode stratifié, c'est-à-dire reflétant la diversité de la population en termes de répartition géographique, niveau de formation, tranche d'âge, catégorie socio-professionnelle, etc. Ces travaux se sont déroulés durant 7 week-ends. Elle a invité des dizaines d'experts, de représentants institutionnels, d'acteurs économiques et d'ONG, en veillant à confronter les points de vue contradictoires et à susciter un débat de fond. Elle a abouti à un rapport de 460 pages proposant 149 mesures. Parmi celles-ci, le président en a lui-même écarté trois qui ne devaient avoir aucune suite. Aucun référendum n'a été organisé. Les 146 propositions restantes ont été reformulées par des cabinets ministériels avant d'être soumises au Parlement. Le résultat des délibérations parlementaires a été la loi Climat et résilience de 2021, qui retient si peu des propositions initiales que manifestement, elle ne permettra en rien d'atteindre l'objectif fixé par le mandat de la Convention. Les membres de la Convention et même certains députés ont déploré la réécriture préalable des textes par l'exécutif, la dilution des objectifs, l'étalement du calendrier, la suppression ou l'atténuation des mesures les plus contraignantes, enfin, l'absence d'un référendum concernant les demandes de révision de la Constitution. Ils ont exprimé un sentiment d'échec, de trahison, de mascarade, voire de foutage de gueule, que l'on retrouve dans d'autres expériences de démocratie dites participatives, toujours limité à un rôle consultatif et dont les conclusions restent le plus souvent ignorées, dénaturées ou détournées par les instances décisionnelles. Il est assez en vogue dans les municipalités aussi de mettre en place un budget participatif ou une assemblée citoyenne participative. Ces dispositifs servent en général à la consultation occasionnelle sur des sujets mineurs et cadrés d'avance par les autorités. Dans quelques rares cas, des communes ont mis en place des commissions citoyennes qui pouvaient réellement s'emparer de questions importantes à traiter, en délibérer et présenter des propositions au conseil municipal. Mais dans tous les cas, en définitive, ce sont les élus qui décident. Un autre dispositif évoqué comme relevant de la démocratie directe est le référendum. Il soumet en effet une question à l'ensemble du corps électoral et a en général une valeur décisionnelle. Dans la Constitution française actuelle, seuls les pouvoirs exécutifs ou législatifs peuvent en prendre l'initiative. Ou alors, il existe un dispositif d'initiative partagée, le RIP, mais qui doit être demandé par un cinquième des membres du Parlement et un dixième des électeurs. Exigence telle que, à ce jour, il n'a jamais été organisé. De toute façon, l'expérience montre que, dans les rares cas où un référendum est organisé par les autorités, son résultat peut être contourné s'il ne correspond pas aux attentes des décideurs. Le dernier en date, en France, remonte à 2005 et concernait le traité constitutionnel européen. Le peuple français a voté majoritairement contre, de même que le peuple des Pays-Bas. Mais l'essentiel de son contenu a été retranscrit dans un autre traité, le traité de Lisbonne, qui n'a plus été soumis aux peuples européens, mais a été ratifié par les seuls parlements en 2007. C'est bien pourquoi des mouvements sociaux comme les Gilets jaunes ont demandé, jusqu'ici sans succès, l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne, le RIC, dont précisément l'initiative reviendrait aux citoyens uniquement. Cependant, nous avons une critique plus fondamentale à adresser au référendum, un doute quant à sa qualité de démocratie directe. En effet, il consiste à faire la moyenne entre des avis individuels isolés, qui ne sont pas nécessairement nourris par des informations exactes, tellement difficiles à obtenir, ni par une délibération collective qui permettrait d'approfondir les enjeux, de confronter les arguments, de peser les avantages et inconvénients de chaque proposition. Autrement dit, on n'atteint pas de cette façon une intelligence collective, une volonté du peuple, c'est-à-dire une véritable démocratie. En conclusion de cette première partie, puisqu'aucun changement n'est possible par le haut, puisque les mouvements sociaux les plus massifs restent pour le moment impuissants, nous proposons de commencer à instaurer la démocratie directe par en bas, en reprenant le contrôle de nos vies au niveau municipal, avant d'aller plus loin lorsque les circonstances se présenteront. À suivre donc dans nos prochaines vidéos.